Bonjour, mon nom est Marc Vallière,
Philippe Gamache
et Étienne Harvey.
Et ensemble, nous formons les Aventureux.
Aujourd'hui, on va vous parler de jeux de société. Là, vous allez dire, pourquoi jeux de société? Vous n'êtes pas un podcast sur des jeux de rôle? Oui, mais justement, on va parler des jeux de société qui ont un certain lien avec les jeux de rôle. Des jeux de société qui peuvent être attirants pour les rôlistes ou qui peuvent même vous aider à développer des meilleurs instincts de rôliste. Donc, un sujet très large, on va jaser de différents jeux, nos opinions sur les jeux, des jeux qu'on pense que vous pourriez aimer. Puis, ça va s'en tenir pas mal à ça pour le sujet d'aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, c'est sûr que moi, j'ai travaillé dans le domaine des jeux de société pendant un petit bout de temps. J'étais animateur à La Revanche, un café pub ludique à Québec. Fait que j'ai baigné pas mal là-dedans. Je sais pas, c'est quoi vos expériences avec les jeux de société en général, chacun?
Nous autres, on aime bien jouer aux jeux de société. Fait qu'on joue quand même à plusieurs jeux pendant un bout, pratiquement tous les vendredis. Là. Fait que on en a fait quand même plusieurs, mais c'est sûr qu'on a, on a toujours une couple de nos préférés qu'on fait que. On a joué beaucoup dans ceux-là, mais ouais, il y en a quand même pas mal qui sont proches des jeux de rôle dans leur essence, des choses comme ça. Des jeux aussi qui peuvent amener les gens qui sont plus juste jeux de société vers le jeu de rôle avec le temps aussi.
Effectivement.
Avec quelques-uns. Puis tout ça. Puis en fait aussi on est. On fait une partie chaque année de très vieux jeux quétaines, de jeux de société quétaines, à tous les années, là, genre à peu près au Nouvel An pour pouvoir se ressourcer.
Genre Candyland, puis des affaires de même?
Non, genre, ouais, un peu dans le genre, mais là, on joue genre à Mal Madness, des choses dans le genre, là. des trucs de... jeune fille de 8 ans là, fait que parce que c'est vraiment niaiseux là, des trucs comme ça là, fait qu'on joue à ce genre de vieux jeu et des fois à Game of Life parce que c'est vraiment horrible comme jeu là, fait que c'est très drôle.
Quand tu y penses, c'est pas trop loin du jeu de rôle.
Ah ouais. Ben
mais disons qu'il y a des affaires plus proches que ça.
on joue tous des filles qui s'en vont acheter du stock parce que c'est durant les spéciaux, là.
Ça doit être aussi magnifique qu'une partie de Made RPGs.
Ouais. En plus, ça parle, tu sais. Mm-hmm. Ça dit, attention, acheteur, il y a un spécial à tel endroit, il y a des ventes à tel endroit. Puis après ça, quand tu t'achètes quelque chose, ah, t'as un spécial qui te permet de lâcher moins cher ou il y en a plus en stock, fait que faut aller ailleurs. C'est des niaiseries de même, là.
Puis toi, Marc, l'état du jeu de société à Val-des-Bois, ça ressemble à quoi?
Pas mal inexistant, malheureusement. Et la dernière fois que j'ai joué à un jeu de société, ça fait quelques années déjà. Malheureusement, il n'y a pas encore une section de Roll20 qui nous permet de jouer à aucun jeu de société.
Mais tu m'apportes un bon point qu'on peut parler tout de suite.
Ah, vas-y.
Pour les gens qui nous écoutent, qui sont justement comme Marc, en région, qui n'ont pas nécessairement accès à des groupes, il y a maintenant plusieurs plateformes qui peuvent permettre de jouer facilement des jeux de société en ligne.
T'es pas sérieux?
Yes.
Ok, je sais pas ça.
Sur Steam, par exemple, on a le jeu Tabletop Simulator, qui est vraiment une plateforme qui est faite pour simuler n'importe quel jeu. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont créé les jeux de société populaires à travers Tabletop Simulator. Fait que vous pouvez jouer à des choses comme Battlestar Galactica, Descent, des jeux qu'on va probablement parler. Vous pouvez jouer avec des gens sur Steam. C'est vraiment bien fait. Il suffit d'être sur TeamSpeak, Skype, peu importe. De vous jaser, de lire un peu les règles avant. Parce que l'affaire que Tabletop Simulator fera pas, c'est simuler les règles du jeu. Faut vraiment les connaître. Puis faire attention parce qu'on peut flipper la table.
Flipper la table?
Ouais, dans Tabletop Simulator, quelqu'un peut décider de prendre la table avec sa souris puis de la flipper puis de faire tout tomber ce qu'il y a dessus. en bas de l'écran.
God, ok, c'est vraiment simulator.
Ouais, mais tu peux faire un redo, je pense, pour comme revenir en arrière, mais c'est comme, s'il vous plaît, flippe pas la table.
Je suis sûr qu'à les premières games, tout le monde l'essaie au moins une fois. Là,
c'est sûr. C'est ben, tellement c'est sûr. Tentant.
C'est comme quand t'as un bouton « Do not press this button ». Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire?
C'est le rêve de tout le monde d'être dans une grosse partie de jeu de société puis de flipper à terre.
Ouais, c'est fou. Ah.
Ça doit être tellement satisfaisant. C'est fou.
Surtout quand il y a plein de petits tokens ou de petites affaires. Hey.
Oh man! Je m'imagine faire ça à... Arkham Horror.
Oh god.
Oh man.
Hey, Twilight Imperium.
Ouais. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Ou...
Oui. Ah, ben, c'est des gros jeux.
Ouais, Arkham Horror. Puis en plus, nous autres, on a toutes les extensions. Oh. On a des 8 boîtes là. Mm-hmm. Fait que c'est...
Puis, bref, il y a d'autres plateformes aussi pour jouer en ligne. Je vais les trouver puis je les mettrai en lien avec le podcast.
Ben déjà, tu m'en apprends. Il faut que j'aille regarder ça sur Steam tantôt.
Mm-hmm. Moi, je vais être ouvert. Je l'ai pas encore acheté d'ailleurs parce que j'ai pas l'occasion nécessairement de le faire, mais ça pourrait être un très bon investissement.
Ça coûte de quoi, ça?
Ouais, ça coûte de quoi, mais je pense pas que le prix doit pas être faramineux. Là.
Ok.
Non. Ça semble que non.
Ça doit être genre peut-être 10-20$ maximum. Donc, on va commencer justement. On parlait de Horror Arkham ou Arkham Horror, qui est un jeu qui peut être très, très intimement lié au jeu de rôle. Fait qu'on va commencer par parler de celui-là. Ça va te le faire découvrir, Marc, en même temps.
Arkane Horror.
Dans le fond, Horror Arkham, le titre le dit, ça se passe à Arkham, la ville fictive que Lovecraft a créée pour ses nouvelles. Fait que c'est un jeu de l'Appel de Cthulhu. De Cthulhu en général, là, je dis l'appel de Cthulhu. Dans ce jeu-là, les joueurs vont être différents investigateurs, puis vont chercher à fermer des portails pour empêcher l'arrivée d'un grand ancien. On a différents grands anciens dans le jeu, peuvent être choisis par les joueurs au hasard. Puis on a la grande carte dans le jeu de base, c'est une grande carte de la ville d'Arkham. Puis les joueurs vont se promener là-dedans, vont faire différentes rencontres. Les rencontres, c'est vraiment des petits bouts de texte à saveur que tu vas avoir des tests à faire, des tests de rapidité, des tests de force, d'intelligence. Fait que c'est... On sent vraiment l'inspiration du jeu de rôle là-dessus.
Ouais, énormément. Surtout que c'est ça, chaque fois que tu fais une aventure, c'est vraiment... souvent, t'as des textes assez longs, là. Pour te dire qu'est-ce qui se passe, puis des choses comme ça, que tu te fais attaquer, que t'sais, puis tu peux réagir de différentes façons dans certaines cartes, parce que des fois tu peux essayer de te sauver dans la rue, ou des fois t'as quand même des fois des choix, mm-hmm. pas tout le temps, là, on s'entend que c'est un jeu de société, fait que t'as un peu moins de choix que dans un jeu de rôle, mais puis aussi la stratégie du jeu, comment jouer, change énormément selon comment les joueurs jouent, selon quel investigateur ils ont pris. Fait que ça te permet vraiment de prendre. Puis ce qui est le fun aussi, un peu comme le jeu de rôle, tout le monde joue ensemble. Fait qu'on on combat la table et non pas il y en a un qui va gagner. C'est le groupe qui gagne ou personne. En fait,
ça, c'est un jeu coopératif, comme on appelle.
C'est ça, c'est un jeu coopératif. Techniquement, la table est supposée gagner plus souvent que les joueurs, là. Sauf quand t'es rendu vraiment expert au jeu, là.
En même temps, ça dépend. C'est sûr qu'il y a beaucoup de chance là-dedans. Ça dépend des monstres qui sortent. Ça va dépendre du grand ancien aussi.
Ouais, c'est ça.
Que t'affrontes. Parce que si jamais le grand ancien se réveille, normalement, les joueurs vont avoir à le combattre. Puis aussitôt que t'as à le combattre, le grand ancien, à moins que tu sois vraiment préparé pour ça, tu risques de perdre.
Ouais,
il y a un grand ancien carrément, c'est s'il se réveille, la terre est l'univers est détruit. Fait que...
Quand Zatot se réveille, elle était faite là. Mais tu veux dire, il y a certains grands anciens qui se battent assez facilement en fait. C'est ça. Fait que ça dépend vraiment de quel. Puis c'est un peu aussi comme les jeux de rôle, t'as plein d'extensions qui rajoutent des trucs à l'univers, soit t'as des boîtes qui rajoutent du challenge, puis des activités à faire, d'autres qui rajoutent des bootboards, c'est d'autres villes Fait que faut que tu te promènes entre villes en plus. Fait que
tu là, peux ça perdre de la vie puis de la santé mentale. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a une extension qui rajoute comme des conséquences si jamais tu tombes à zéro de vie ou à zéro de santé mentale.
Ouais, au lieu de d'aller à l'asile, tu peux décider de prendre une conséquence qui va faire. Puis si automatiquement tu as une deuxième fois la même conséquence, ton personnage est automatiquement dévoré. Fait que c'est ça.
Des complaintes que souvent avec Horror Arkham, c'est que c'est un jeu qui peut être très long. Puis des fois un peu compliqué pour des nouveaux joueurs. Fait que c'est pas nécessairement celui que je conseille d'entrée de jeu là pour initier quelqu'un à quelque chose qui est un petit peu plus vers le jeu de rôle. Toutefois, ils ont sorti très récemment Eldritch Horror, qui est en français, je ne m'en souviens plus.
Oui,
Les Contrées de l'horreur en français. Puis c'est comme un peu un remake d'Horreur Arkham, c'est juste que là, au lieu de se passer dans la ville d'Arkham, ça se passe dans le monde au complet. Puis les règles sont simplifiées, puis le temps de jeu est raccourci. Au lieu de prendre 4 heures et plus une partie, elle va prendre 2 heures.
T'sais. Puis la version plus... Ben, tu vois, Arkham Horror, selon si t'es malchanceux, nous autres, c'est déjà arrivé de finir une game en moins d'une heure.
Ça, si t'es malchanceux.
Mais il y a des... Habituellement, les games durent dans 4 à 6 heures.
Mm-hmm.
Avec ou sans extension.
Avec extension, c'est sûr que ça va souvent ajouter un peu de temps de jeu.
Un petit peu, mais en même temps, ça ajoute aussi du temps où est-ce que tu peux te faire péter la gueule plus rapidement. Fait que ça revient pas mal à la même chose.
Mais ce que je dis souvent, c'est sûr que ça dépend des jeux. Il y a des jeux que des extensions semblent presque nécessaires, mais la plupart du temps... quand t'achètes un jeu, t'es toujours mieux d'acheter lui de base sans acheter d'extension. Après, si tu vois que t'aimes ça,
puis
t'aimes vraiment jouer, tu peux y aller avec quelque chose de plus. Donc c'est ça. Eldritch Horror, puis t'allais parler, je pense, d'une autre version.
Il y a ça s'appelle Elder Sign, ouais, qui est la version très 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 simple, qui joue avec, qui joue, ça prend quoi, 5 minutes, même pas à préparer, au lieu d'une heure à une heure et demie pour préparer.
Ouais, non, c'est ça. Mais les parties sont à peu près justement une heure et demie, deux heures. C'est comme un jeu de dés d'horreur Arkham, un peu.
Ouais. Ben, en fait, si tu fais bien tes games, nous autres, on les fait en 45 minutes à peu près. Nos games pour finir la game. Là. Fait que quand tu connais bien les règles, là, ça roule assez rapidement.
Moi, ouais, j'avoue qu'à chaque fois que j'ai joué, c'était. Soit la première fois que je jouais, soit fallait expliquer à quelqu'un.
À quelqu'un, ouais, c'est ça.
Prend plus de
temps. C'est toujours un peu plus long. Puis ils ont aussi une extension là, qui vient de sortir, fait quelques mois, si je me souviens bien. Là.
Puis c'est sûr que lui est un petit peu moins. Côté roleplay est un petit peu moins là. Mais à mon avis, presque tous les jeux coopératifs ont un petit côté roleplay parce que ça te demande de communiquer avec les autres, de faire « Ok, là, on va faire ça, on va aller là-bas, etc. » Fait que c'est sûr qu'il y a un peu tout ce petit côté-là, il y en a qui l'ont plus que d'autres.
C'est ça.
Juste une question, c'est écrit « Recommandé pour 1 à 6 joueurs », comment tu peux jouer à ça à 1?
Tu peux jouer tout seul, c'est vraiment les règles restent totalement les mêmes. C'est
un jeu coopératif, hein? Fait que tu joues toujours contre la table.
C'est ça. Les jeux coopératifs, tu vas souvent pouvoir jouer seul. C'est sûr que t'es mieux de jouer plusieurs personnages, surtout Horror Arkham. C'est fait pour... C'est sûr que si, justement, on n'a pas accès à des joueurs, etc., ça se fait bien. C'est pas nécessairement l'affaire la plus excitante. Là. Personnellement, je suis pas un grand fan de jouer à des jeux de société seul. Mais quand l'option est pas là, ça peut être une très très bonne alternative.
C'est ça. Puis pour ceux qui aiment bien un jeu puis qui veulent jouer tout seul au lieu de jouer tout seul, parce que quand tu joues tout seul, tu peux jouer à plusieurs, tu peux mettre plusieurs personnages, parce que un seul personnage tu réussiras jamais.
Non, c'est ça.
Mais il y a aussi la version sur tablette, autant sur les iPads que sur les Android. Puis la version tablette sert de test bed pour le jeu de société lui-même. Fait que il y a toujours un ou deux extensions d'avance sur le jeu de société. Fait que nous autres on joue beaucoup à la version tablette pour savoir ce qui s'en vient, pour savoir est-ce qu'on va acheter la prochaine extension ou pas.
La plupart des jeux sortent maintenant aussi sur tablette ou téléphone cellulaire, donc ça peut permettre de les essayer d'une autre manière avant de les acheter. Parce qu'on s'entend qu'un jeu de société, ça coûte quand même cher. Ça peut coûter 50, 60, ça peut même aller jusqu'à 80, 100 $ dépendant des jeux, donc...
J'en ai vu un que je voulais qui coûte 120.
Ouais, ben j'en ai un qui m'a coûté à peu près ça, mais c'est mon jeu préféré à vie, donc okay. Je vais en parler un petit peu plus tard. Bon, putain, je vais en parler tout de suite, pourquoi pas.
Ouais, non, attends, ouais, let's go.
Un autre style de jeu, à mon avis, qui peut attirer les rôlistes, les jeux style Risk. C'est sûr que Risk, c'est comme l'exemple... de base que tout le monde connaît, des jeux où il va y avoir beaucoup de diplomatie, de parlage, de politique, d'alliance, de traîtrise, etc. Risk, pour moi, ça a pris un peu de bord, parce qu'il y a des jeux qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressants pour le même temps de jeu.
Je suis tellement pourri à Risk, là. C'est
ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hasard à Risk aussi. Il y a de la stratégie, beaucoup également.
Ben, c'est... Mon problème avec Risk, c'est le même problème que jouer au poker. Quand je joue au poker, moi, je dis « Ah, ouais, OK, ben, all-in tout de suite, let's go. » Moi, je m'en calisse. Puis Risk, c'est la même chose.
Il y a beaucoup de joueurs de Risk qui font cette chose-là. Puis c'est des joueurs aussi qui jouent beaucoup moins. Tu sais, on dit « Oui, on peut jouer un peu roleplay parce que tu peux jouer. » Mais ceux qui font du all-in, c'est souvent des joueurs, justement, qui ne feront pas de la stratégie autre que ben je joue mon tableau comme si c'est pas un jeu que tu peux négocier avec quelqu'un d'autre ou tu peux faire des alliances, des choses comme ça.
Ouais, ben, tu sais, je suis un peu comme Marc dans le sens que si je joue à Risk ou à un jeu semblable, je serais pas nécessairement le gars le plus stratégique. T'sais, moi quand je joue, je vais vouloir qu'il se passe des affaires intéressantes. T'sais, je voudrais pas nécessairement qu'il... Mon but, c'est pas nécessairement de gagner, tu sais. Okay. Même quand je joue à Risk, etc. Que, si je gagne, tant mieux. Ça reste dans ce que j'essaye de faire, on s'entend. C'est juste que je veux avoir du plaisir et que la game soit intéressante en premier lieu. Des alternatives à Risk. Donc, je pense à deux particuliers. Tantôt, je parlais de mon jeu préféré qui est Twilight Imperium, qui est rendu à sa 3e édition. Oui, je regarde ma boîte, c'est ça. Twilight Imperium, c'est un jeu que si vous voulez jouer, prenez tout congé cette journée-là. Okay, pour donner une idée, ma plus longue game a duré 11 heures de temps. C'est un jeu qu'on peut aussi laisser sur la table puis revenir le lendemain, des choses comme ça.
Thank God, si bas, là, 11 heures.
Voilà. Dans le fond, c'est un espèce de jeu de bataille intergalactique. Première chose qu'on fait normalement, c'est on construit notre galaxie. Chaque joueur va être assigné une race. Il y en a des tonnes différentes, surtout avec les extensions. Et après, on rentre dans le jeu en tant que tel. Le jeu, c'est de la conquête spatiale, de la politique. On vote des lois, on a de l'influence selon les planètes qu'on a. Puis également du commerce. On va avoir des deals commerciaux avec les autres joueurs, etc. Fait que c'est beaucoup de... C'est sûr qu'on dit beaucoup de parlage, d'alliance, de traîtrise, encore une fois, des choses comme ça. Mais c'est tellement un jeu merveilleux. C'est vraiment, vraiment, vraiment un excellent jeu, à mon avis. Mais c'est un jeu qu'il faut avoir le temps pour investir dedans. Chaque partie est différente et chaque partie est comme une histoire épique que tu vas te souvenir vraiment longtemps. Il n'y a pas une partie que j'ai oubliée jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'avec la longueur du jeu puis la grosseur, on joue une, deux fois par année normalement. Mais on essaye au moins de le sortir à chaque année. Puis comment ça fonctionne? Ce qui est merveilleux dans le jeu, c'est que pour gagner, il faut que tu aies 10 points de victoire normalement. Les points de victoire peuvent se gagner de différentes manières selon les objectifs qu'il y a sur le jeu qui changent aussi à chaque partie. Fait que même si tu te fais détruire le trois quarts de ta flotte, tu peux encore gagner la partie, selon les objectifs.
Yeah, nice.
Fait que ça offre vraiment un autre niveau de jeu. C'est comme, j'ai des amis qui ont fait une partie récemment auquel j'ai pas pu assister malheureusement, et c'est une race totalement passive qui a gagné la partie. une race que son seul but, c'est de faire de la politique, puis d'avoir un peu plus de pouvoir quand vient le temps de voter des lois.
Fait qu'ils ont juste fait de la diplomatie, puis ils ont gagné comme
exactement.
Ça.
Exactement.
OK.
Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau jeu que j'adore. L'avantage, justement, si, je sais pas s'il est sur Tabletop Simulator, mais s'il est dessus, ben, tu peux probablement sauvegarder ta partie, puis le reprendre plus tard, tu sais.
Ouais.
Y a-tu bien des règlements, ça, ça?
C'est un jeu quand même compliqué. C'est le genre de jeu que je conseille, surtout que le jeu est long, je conseille souvent aux gens quand ils font une partie de Twilight Imperium, lisez les règles avant, sont disponibles sur le site de Fantasy Flight Game, qui est l'éditeur du jeu. Lisez les règles avant, puis après, embarquez.
Ouais, disons que Fantasy Flight ont souvent des jeux avec beaucoup de règles.
Ouais. Puis les règles de Fantasy Flight Game sont souvent... sont pas mal faites, c'est juste qu'ils sont propices à interprétation.
Ouais, mais ça... Quand t'as beaucoup de règles, ça veut pas, ça devient souvent propice à l'interprétation.
Dans le même style que Twilight Imperium, quelque chose qui va peut-être attirer un petit peu plus le grand public, c'est le jeu de table de Game of Thrones.
Ah.
C'est tout simplement Game of Thrones de board game. Vous avez les différentes familles de la série et votre but, c'est justement de conquérir un certain nombre de châteaux pour gagner la partie ou d'être celui qui en a le plus à la fin de 8 tours. C'est un jeu qui dure de à peu près 4 à 6 heures selon le nombre de joueurs. Je recommande d'y jouer à 6, qui est le maximum, ce qui est mieux parce que sinon, si t'es moins de joueurs, le jeu coupe des terrains sur la carte, des choses comme ça. C'est un peu plate à mon avis. Mais ça reste un excellent jeu. Ce qui est le fun dans le principe de Game of Thrones, ça ressemble un peu au jeu de diplomatie que moi j'ai jamais joué, mais que je sais qui est quand même connu. Tous les joueurs vont mettre les ordres qu'ils vont donner à leurs différents territoires de marcher sur un autre territoire, de se défendre, d'aider un territoire adjacent, etc. Tu mets tous les ordres en même temps, tout le monde, cachés. Puis après, les joueurs vont les révéler un ordre chacun à son tour. Fait que tu peux dire à un joueur, OK, moi je vais attaquer là, est-ce que tu vas m'aider? Puis là, l'autre joueur fait, oui, je vais t'aider, je mets l'ordre pour t'aider là. Puis finalement, quand il révèle, ben, il révèle qu'il t'aide pas puis qu'il prend ton territoire. T'sais. Fait que ben, ça permet. C'est vraiment fait pour que tu trahisses les ordres.
Ben, ouais, comme diplomatie, puis comme Game of Thrones aussi, jusqu'à un certain point, là, c'est assez réaliste de cet univers-là. Là. Particulièrement quand tu lis les livres.
Fait que ça, c'est des jeux un petit peu plus... un peu plus de conquête, disons, conquête diplomatique. Qui peut intéresser une certaine partie de rouliste, à mon avis. Des jeux qui demandent plus d'investissement pour la plupart, toutefois. Est-ce que vous avez des questions sur ces jeux-là, si jamais...
Je me demandais combien ça coûtait, ces deux jeux-là. Est-ce que c'est très cher? Ou...
C'est des jeux qui vont souvent avoir beaucoup de matériel, beaucoup de miniatures, des choses comme ça. Game of Thrones doit séjourner à l'entour de 60 à 80 $.
Quand même.
Twilight Imperium, c'est du 100 $. 100, 110, facile là, pour le jeu de base.
Les jeux de société classique qui n'ont pas tant de choses dedans. Les jeux sont pas mal rendus dans ces prix-là, il faut se dire, là.
Les gros jeux, c'est sûr qu'ils vont toujours coûter plus cher.
Habituellement, t'en as pour ton argent, puis au nombre d'heures que tu joues, si tu rejoues une couple de fois, ça coûte pas mal moins cher qu'aller au cinéma faut se dire ça aussi, hein.
Quelque chose qui peut peut-être donner un petit peu le même feeling, mais en moins long, puis en moins cher, c'est Cosmic Encounters. Cosmic Encounters, c'est un jeu de, encore une fois, conquête spatiale. Tout le monde a 5 planètes avec des petits vaisseaux qui ressemblent à des assiettes dessus. C'est pas fait pour être beau. C'est un vieux jeu également qui a été réédité plusieurs fois. T'as une race. Je pense que dans le jeu de base, il y a 50 races différentes. Les règles sont super simples. T'as une cible que tu vas attaquer au hasard déterminée par le jeu. Fait que c'est même pas toi qui décides qui t'attaque. Puis ton but, c'est d'établir un certain nombre de colonies étrangères chez les autres joueurs. Quand tu te bats contre quelqu'un, t'envoies un certain nombre de vaisseaux entre 0 à 4. L'autre, il défend avec qu'est-ce qu'il y a sur sa planète. Chacun joue une carte. Une carte qui a un chiffre dessus, de 0 à 40, par exemple. T'ajoutes ce chiffre-là au nombre de vaisseaux que t'as envoyé, le nombre le plus haut gagne.
Okay.
À la base, c'est vraiment juste ça. Mais tu peux demander justement de l'aide pour défendre, de l'aide pour attaquer. Il y a des avantages aux deux, etc. Vu que chaque race a un pouvoir, il y a de la diplomatie qui embarque aussi. Puis c'est un jeu qui doit être dans les 50$ puis qui dure à peu près 2 heures. Fait que c'est vraiment ce qui joue de 3 à 6 sans les extensions. Fait que c'est un jeu un petit peu plus abordable, à mon avis, dans tous les sens du terme.
Est-ce qu'il est semblable à, voyons comment tu l'appelais l'autre, là?
Twilight Imperium?
Ouais.
Qui ne... Et non, c'est pas parce que ça s'appelle Twilight Imperium qu'il y a des vampires qui brillent, inquiétez-vous pas. mais non, il est pas mal plus abordable, pas mal moins long. Non, il y a pas de vampires qui brillent.
Good.
Souvent, je dis ça, tu sais, je dis au monde, ah ouais, j'ai une partie de... Twilight, parce que je dis ça pour comme raccourcir le titre. Puis là, la personne me fait, quoi, tu vas jouer... un jeu avec des vampires qui brillent? Non, c'est pas ça. Je suis pas rendu là.
Ouais, il faut que t'incarnes une fille qui a zéro émotion.
Ah, merveilleux.
Ouais, c'est super.
C'est pas mal ça.
Méchant jeu de rôle.
Un autre style de jeu, peut-être que vous allez être plus familier avec ça, du moins, Philippe, c'est Descent, ou ce qu'on appelle des Dungeon Crawler.
Ouais, en fait, Remus Descent, là, ouais. Mm-hmm. On l'appelle Descent, mais il me semble que le nom qu'on fait, c'est Remus Descent.
Ben, non, en fait, c'est juste Descent.
C'est juste Descent?
Oui.
Descent Journey. À moins qu'on parle pas. Dark.
Ouais, à moins qu'on parle pas du même jeu.
Ah, je vais voir.
Ils ont sorti la deuxième édition récemment. La première édition a eu 40 000 expansions, ah, là.
Je pense que c'est ça, la second edition.
Oui. Okay. Si vous voulez vraiment un feeling de Donjon Dragon, c'est probablement un jeu parfait pour ça.
Ouais, ouais.
T'as une espèce de maître de jeu, que lui va avoir des points pour faire apparaître des monstres, pour faire différentes choses.
Il y a des genres de cartes de pouvoir qu'il peut rajouter à ses monstres temporairement. Selon les scénarios, hein, c'est ça, il peut avoir des monstres de plus ou pas. Puis il y a beaucoup de scénarios, tu peux aussi faire tu peux faire des quêtes à long terme si tu veux, tu peux faire juste des one shot games. Il est vraiment fait pour plusieurs trucs comme ça. T'as un certain nombre de personnages qu'il y a, mais qui avec le temps évoluent, ont des nouvelles habilités, un paquet de choses. Ben, ils ont des équipements aussi que tu peux trouver, soit dans les donjons, soit en acheter entre les missions. T'as de l'expérience, exactement comme les jeux de rôle.
Est-ce qu'il y a du roleplay dans ce jeu-là?
Je te dirais que t'as du roleplay pour faire la stratégie. Fait que ça dépend à quel point tu veux le roleplay. Ou juste que tu donnes des stratégies. Sinon, ben, c'est que ça, je te dirais que ça dépend avec qui tu joues. Nous autres, comme on est tout pas mal des gens qui font du roleplay normalement, on en rajoute un peu, mais pas tant que ça, là.
C'est sûr que ça, le roleplay est pas mal optionnel dans tous les jeux qu'on est en train de parler. C'est juste que instinctivement, les gens vont penser en fonction de ce qu'ils ont devant eux, en fonction du jeu. Ce qui est déjà une bonne partie du roleplay, à mon avis. Parce que le roleplay sera pas nécessairement parler comme son personnage, mais c'est penser comme son personnage.
Exactement. Fait que c'est surtout là, je pense, que tu vas le roleplay va être, là.
Mm-hmm.
Justement, nous autres, on a joué hier, on fait à peu près une game par mois de ce jeu, alors ça c'est assez intéressant, là. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé ce groupe-là. Mais on s'amuse pas mal, là.
Moi, j'ai joué une fois Descent. J'avais quand même beaucoup, beaucoup aimé.
Ouais, c'est le fun. C'est le fun. Hier, on a fait quelque chose. On est en train de jouer comme un genre de one-shot scénario qui se joue en deux actes, si tu veux. Puis On s'est un peu trompé, fait que la deuxième hack, on a mis les monstres qui appellent niveau 2, si tu veux. Sauf que normalement, niveau 2, c'est quand t'as joué justement au moins 3 épisodes complets en ayant eu tes XP, en ayant acheté du stock. Fait que les monstres étaient vraiment trop forts pour nous autres, là. On était vraiment surclassés. Puis on a quand même pas mal réussi à finir le jeu. Mais pas complètement, là. Fait que c'était vraiment tellement trop rough, là. Mais, tu sais, en ayant la bonne stratégie, en ayant...
Ça arrive tellement tout le temps. Quand tu joues à un jeu de société, c'est sûr que au moins la première partie, il y a une règle que tu vas interpréter tout croche ou que tu vas oublier de faire.
C'est ça.
Après, tu t'en rends compte, tu le corriges, c'est pas plus grave que ça.
Non, c'est ça. En fait, on a décidé qu'on va refaire le même scénario la prochaine fois, puis, avec les bons monstres. Fait que on a repris les photos de où est-ce qu'on était rendu avec qu'est-ce que nos personnages avaient puis tout ça pour pouvoir continuer. Là. Fait qu'on va refaire exactement le même scénario, mais là, mieux calibré, puis hein, ça règle le problème. Là. Fait que c'est quand même un jeu qui permet bien les choses assez facilement. Puis, les règles, je dirais, le maître de jeu, c'est celui qui a le plus de choses à se souvenir. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà joué, je te recommanderais. Mais pour le reste, des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience vont pouvoir jouer assez facilement puis bien s'amuser. Mm-hmm. Je pense que c'est un très bon jeu. T'sais, à date, on a joué à des jeux qui n'étaient pas très bons pour l'introduction, mais celui-là, c'en est un bon. Là.
Non, surtout que le premier scénario est toujours comme fait pour t'introduire au raid.
C'est ça, exactement.
Il y a une version aussi Cthulhu de Deesen qui s'appelle Mansion of Madness, qui est vraiment le même principe, mais dans le monde, avec des... À place de te promener dans des donjons, c'est dans des manoirs.
Mm-hmm.
Un autre jeu qui s'apparente un peu à ça, c'est Betrayal at House on the Hill. Je sais pas si tu connais, Philippe.
Non, pas du tout.
C'est un très vieux jeu qui est fait par Avalon Hill. Okay. Je pense que maintenant, il est à Wizard. Wizard of the Coast. Donc, pour ceux qui connaissent pas Wizard, ben, il y a un problème quelque part. Non, c'est pas vrai. ceux qui font Donjon Dragon. Betrayal, dans le fond, ça commence un peu comme un film d'horreur de série B. Tout le monde interprète des personnages différents qui visitent une espèce de manoir hanté qui change à chaque partie parce que tu découvres pièce par pièce puis les pièces se mélangent. Puis il se passe toutes sortes de choses dans le manoir. T'as des stats qui sont intelligence, santé mentale, rapidité puis force. Tes stats vont monter ou descendre selon ce qui se passe durant l'aventure. Il n'y a pas vraiment de but. Au début, le but, c'est juste d'explorer. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un film d'horreur de série B, parce que tu vois des fantômes, tu trouves des cadavres, mais tu restes là pareil. Mm-hmm. À un moment donné, à un certain moment de la partie, qui peut changer d'une partie à l'autre, il y a un traître qui va se révéler parmi les joueurs. Même le traître ne sait pas que c'est lui le traître avant que ça arrive.
OK.
Puis dans le fond, il y a 50 scénarios différents qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'il y a 50 scénarios dans le jeu, 50 traits différents qui peuvent se passer. Des exemples que j'ai, par exemple, un scénario que... Bon, on découvre finalement que le traître se transforme en ver géant à deux têtes, puis son but, c'est d'amener ses deux têtes dans la porte de la sortie du manoir. Ou finalement, il y a un traître, mais il est caché, parce que normalement, les traîtres, une fois qu'il est révélé, tout le monde sait c'est qui. Mais là, cette fois-là, tout le monde a un collier, puis après tant de tours, leur collier va les tuer. Puis parmi eux, il y a un traître que son but, c'est de tuer tout le monde. Fait qu'eux, il faut soit qu'ils trouvent les clés pour enlever leur propre collier, puis après tuer le traître, ou d'autres solutions comme ça. Fait qu'il y a vraiment plein de scénarios différents. Il y a même un ou deux scénarios, je pense, qui sont complètement coop. Ils sont plus rares, mais... c'est un jeu vraiment, vraiment intéressant. C'est le jeu préféré de ma copine. Toutefois, les scénarios sont très inégaux. Tu peux avoir des scénarios qui sont super le fun, super excitants, Mais des scénarios que, genre, c'est clair déjà que le trait gang fait que tout ce que tu peux faire, c'est survivre plus longtemps. Des choses dépendant de ce qui est arrivé avant. T'sais.
Ok, ouais.
Fait que, mais c'est un jeu que j'adore jouer quand même, là, qui dure à peu près 2 heures. Fait que, ça vaut la peine, à mon avis. Qui coûte pas très cher, je pense qu'il est 40$.
Nice.
Fait que...
Puis un peu dans le même genre de jeu, ben, en fait, qu'on a commencé depuis Descent, c'est Munchkin Quest.
Oui!
Qui est aussi... c'est l'univers de Munchkin, fait que les joueurs de Munchkin sont pas trop mélangés, mais le jeu se joue très différemment. C'est à part que c'est ça, c'est les mêmes monstres, les mêmes genres d'habilités, puis affaires comme ça. Le jeu se joue quand même très différemment. Puis ce qui est le fun de Munchkin Quest, c'est que comme c'est du Munchkin, ben il y a des expansions complètement cinglées là, qui rajoutent, comme nous autres. L'expansion qu'il faut tout le temps mettre quand je joue maintenant, c'est Portal.
Portal Combat?
Portal, là, comme le jeu Portal. Là. Fait okay. que t'as des portails qui te permettent de passer d'un room à l'autre.
Ouais, c'est ça, c'est Portal Combat.
Combat?
Ouais. Ben, de ce que j'ai vu, moi.
Ça se peut. Mais c'est fait que là, il y a encore plus de... Les monstres apparaissent sur toi plus souvent. C'est encore plus risqué de rentrer dans le donjon là. Fait que, mais c'est super drôle là. C'est super amusant là.
Même Munchkin à la base peut être un jeu intéressant pour les rôlistes, seulement pour rire un peu de nos aventures fantastiques. Là.
Ah c'est.
Puis surtout rire des ben finalement des gens que tout le monde appelle Munchkin. Hein. Mm-hmm. À cause de ce jeu où c'était un terme utilisé avant, je suis pas trop sûr parce que c'est pas mal la majorité du monde que j'ai entendu dire qui utilisait ce terme pour parler des mix maxers des mid maxers, ben c'est le jeu était déjà existant, fait que je suis pas trop sûr qu'est-ce qui était en premier là, mais
le terme était là en premier, mais à la base c'est un terme plus anglophone.
Ouais ouais non c'est sûr.
Alors, j'ai eu bien du fun à Munchkin Quest, moi, t'avouer. Commencer, t'es humain de niveau 1, puis tu finis niveau 10, t'es moitié elfe, moitié nain, guerrier avec 3 bras, une chainsaw, puis deux épées. C'est tellement drôle, là, t'as pas idée.
C'est tellement n'importe quoi, là.
Bon, surtout quand tu finis le donjon, que le boss de fin, c'est un poisson rouge dans un bocal, là.
Ouais, mais c'est le poisson rouge niveau 20 rendu.
Ouais, ouais, écoute, c'est le poisson rouge de la mort, là, parce que, ouais.
J'ai une pensée à un jeu qu'on est complètement passé par-dessus. Un jeu, probablement, que plusieurs auditeurs ont sur le bout des lèvres. Le loup-garou.
Ah oui.
Que pas le monde, tout le monde connaît. Je sais pas si toi, Marc, t'as-tu déjà joué au loup-garou? Tu connais-tu le jeu en tant que tel?
Je ne connais pas du tout.
Oh, c'est rare. Le loup-garou, dans le fond, le principe, pour ceux qui connaissent pas, on est la partie du temps en cercle autour d'une table, ça joue à 8 ou plus, il y a un maître de jeu, t'es dans un village, parmi les villageois, il y a des loups-garous. Le but, c'est de trouver ses qui puis de les sortir du village. Le but des loups-garous, c'est de tuer tous les villageois puis de survivre. Fait que comment ça se passe, c'est que certains villageois ont des pouvoirs également. On passera pas par-dessus tout ça, comme le but, c'est pas d'expliquer toutes les règles. Dans le fond, t'as deux tours de jeu en quelque sorte. T'as la nuit. La nuit, tout le monde ferme les yeux. Le maître de jeu va réveiller les villageois qui ont des pouvoirs puis les loups-garous pour qu'ils fassent une victime. Après, t'as l'autre phase de jeu qui est le jour. Le jour, tout le monde se réveille, on révèle les victimes. Et là, ensuite, on jase. On dit nos soupçons, on dit « Bon ben, je t'ai entendu faire du bruit, t'es peut-être un loup-garou, etc. T'as une barbe, t'es probablement un loup-garou, etc. Mmh. » Les accusations gratuites sont souvent très présentes, au moins dans le premier tour de jeu. Là.
Ouais, nous autres, c'était toujours les roues qui mangeaient le premier coup, habituellement, parce que tout le monde sait que ça n'a pas d'âme, alors ça doit être un loup-garou, tu sais. On joue avec ces vieilles peurs médiévales.
Pour vrai, c'est probablement le jeu, un des jeux que j'ai vu qui a créé le plus de roleplay, même chez les gens qui en font pas.
puis ils s'en rendent même pas compte qu'ils font du roleplay.
Ouais, non, ils s'en rendent pas compte. Le monde, ils font comme, bon, ben, j'ai entendu telle personne dans sa maison faire du bruit durant la nuit, il dormait pas, blablabla. Tu sais, le monde se met vraiment dedans, normalement. C'est, quand t'as la bonne ambiance, là, c'est un ouais. jeu qui peut être très intéressant. Le désavantage de loup-garou, quand tu meurs au début, tu peux être pogné, genre, 20 minutes à attendre la fin de la game.
Ouais.
Si c'est pas plus quand c'est une grosse partie.
Ouais, mais en même temps, c'est drôle de voir comment... Moi, j'aime bien, même quand je suis mort, je ris un peu des autres joueurs qui cherchent, qui courent après les loups-garous. Puis après ça, tu sais, c'est comme... Tu fais... Moi, des fois, quand je meurs deux, trois tours, j'ai déjà une bonne idée qui sont les loups-garous. Puis là, je regarde les autres qui sont comme... Ils sont bien cons aussi. C'est tellement évident, c'est qui les loups-garous, puis ils accusent n'importe qui d'autre. Là. Mais là, ben, en plus, maintenant, une fois que t'es mort, ben, tu sais c'est qui les loups-garous, tu sais c'est qui... tu vois un peu... Fait que, dépendant quel genre de personnalité que t'es, tu peux quand même t'amuser beaucoup à regarder les joueurs.
Non, ça, je suis comme toi, ça me dérange pas vraiment. C'est comme il y en a qui vont... Ils voudront presque pas jouer s'ils n'ont pas de pouvoir spécial.
Ouais, c'est ça.
Pour avoir été animateur de loup-garou longtemps, justement...
Ouais, ouais.
Il y a des joueurs un petit peu plus difficiles que d'autres.
C'est de 8 à 18 joueurs, par exemple. C'est, mon Dieu, ça te prend toute une famille, là.
La version américaine se joue jusqu'à illimité, je pense.
Pas juste la version américaine, là. T'as des extensions pour jouer.
Ouais, mais même avec les toutes. J'avais le jeu avec toutes les extensions disponibles, la revanche. Ça donne un très haut nombre de joueurs. La plus grosse partie que j'ai faite, c'est 32 joueurs.
Ah, tu vois, nous autres, on a joué à pratiquement 200.
Mais si tu joues à 200, faut que tu fasses plusieurs villages ou que tu ailles vraiment plusieurs jeux.
Ouais, mais...
Parce que aux États-Unis, il existe Ultimate Werewolf.
Ouais.
Que t'as genre 100 rôles différents dans la boîte ou quelque chose comme ça. Qui est un peu le même principe.
C'est pas le même principe. En fait, ce jeu-là, ça reste que c'est un jeu d'enfant classique, là. Comme nous autres, quand on était jeunes, on jouait à promener nous dans les bois, là. Pendant que le loup n'y est pas. Puis, tu sais, puis on se mettait à courir. Ben, c'est un vieux jeu français. Qui est utilisé en France, puis je pense en Allemagne. Puis,
à la base, si je me souviens bien, c'est un jeu russe qui s'appelle Mafia.
Ah ouais, non, mais non, je te dis, Mafia vient du même principe de système, t'as un jeu, mais Loup-garou, c'est un jeu là qui jouait dans les années 1700 là. C'est un vieux jeu.
Possible, mais il me semble que j'avais lu que à la base c'était vraiment pris du jeu russe.
Ouais. Peut-être. Ben, moi, je pense que le monde qui ont dit ça, parce que moi, l'auteur m'avait carrément dit que c'était des choses qu'il se souvenait de quand il était jeune au jeu qu'il jouait chez sa grand-mère, mais que quand il a créé, il a pris des concepts qui venaient de me semble, de Mafia ou puis d'un autre jeu, je me souviens plus c'était quoi, mais j'ai eu la chance... Quand ils ont sorti l'extension du village, tu sais, l'extension où est-ce que t'as les petites maisons puis tout ça, là.
Mm-hmm.
Avant qu'elle sorte, j'étais au monde du jeu à Paris, puis j'ai joué avec la version bêta avec l'auteur, puis c'est ce qu'il nous avait dit là, que ça venait de ces vieux jeux là, mais.
Possible.
Mais tu sais, souvent ce genre de truc-là, t'as quand même beaucoup de pollinisation en plusieurs jeux. Là. C'est pas 100% ce que c'était avant le jeu.
Ah, je suis sur le site officiel, puis ça dit vraiment que c'est basé sur le jeu Mafia, un jeu d'ambiance pratiqué en Russie.
Ah, ok.
Ça a pas l'air tellement cher comme jeu non plus.
Non, ça coûte 15$, 12$. Non, même pas. Ça coûte genre 12$.
Je pense que c'est ça. Peut-être que qu'est-ce qu'il disait, c'était parce que ça fait quand même longtemps là, de ça que le Mafia avait un lien, puis que en fait le loup-garou était peut-être l'inspiration des jeux quand il était jeune ou quelque chose comme ça.
Mais bref, c'est pas très important.
C'est pas important là, mais c'est quand même, il y a des jeux comme
juste
ça.
Juste pour être sûr que les gens aient la bonne information. Ouais, ouais, non, c'est ça, ça coûte vraiment pas cher. Le jeu de base coûte 12$, l'extension aussi, normalement. Il y a une version qui est sortie cette année, qui est, je m'en souviens plus, le complot, Loup-garou le complot, en tout cas, une version de Loup-garou qui rassemble vraiment toutes les extensions. Fait que pour les gens qui veulent avoir le package complet.
T'as aussi t'as la version pour justement les comme par exemple les gros clubs qui jouent là, avec les grosses cartes en hexagone. Puis t'as les versions petits jeux. Tu sais, t'as comme vraiment plusieurs éditions du jeu qui donnent à peu près la même affaire. Là, mais,
C'est un jeu qui peut jouer facilement sans le jeu en tant que tel, là.
Ah oui,
Tu sais, tu prends des petites
également.
cartes à jouer ou n'importe quoi, là. Ou même juste, bon, ben, si je te cogne sur la tête deux fois, t'es un loup-garou. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment simple, là. J'arrêtais pas de jouer quand j'étais moniteur de camp de jour avec mes jeunes, puis on n'avait pas le jeu.
Ouais, ben c'est ça. Mais c'est des jeux, c'est ça, il y a beaucoup de jeux qui existaient qui ressemblaient à ça avant aussi. Fait que...
Des bonnes alternatives récentes. T'as le jeu Résistance puis le jeu Avalon qui est un peu le même principe. L'avantage de Résistance, ça joue de 3, non, de 5 à 10, si je me souviens bien. Fait que tu peux jouer avec un petit peu moins de joueurs. Il n'y a pas de maître de jeu. Puis il n'y a pas d'élimination. Tout le monde joue jusqu'à la fin.
Ah, ok.
Sinon, c'est vraiment à peu près le même principe.
Donc, il n'y a pas d'attendre 20 minutes parce que je suis mort au début de la game, là.
Non, c'est ça. Puis c'est des jeux qui coûtent le même prix. Moi, c'est des jeux que j'adore. Par exemple, à chaque tour, tu as une espèce de chef d'équipe qui choisit un nombre de personnes qui vont aller faire la mission ou la quête si tu joues à Avalon. Tout le monde vote s'il accepte ou non l'équipe. Si l'équipe est acceptée, ces gens-là vont recevoir deux cartons. Un qui fait réussir la mission, un autre qui a fait échouer. Ils jouent celui qu'ils veulent en secret. Évidemment, les résistants vont toujours faire réussir la mission, mais les espions ont deux choix. Soit la faire échouer, soit se faire passer pour un résistant puis la faire réussir. Peu importe le nombre de personnes qui sont parties en mission, dès qu'il y a un échec, la mission est échouée. Le but des espions, c'est d'en faire échouer 3 sur 5. Le but des résistants, c'est d'en faire réussir 3 sur 5. Fait que c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Les parties sont super rapides. Puis c'est un peu le même principe que Loup-garou, là. T'as les. Ça incite beaucoup au roleplay, puis à jaser ensemble. Peut-être un petit peu moins instinctif que Loup-garou au niveau d'inciter de roleplay. J'en ai vu moins souvent, peut-être, dans Résistance. Le thème de Loup-garou attire beaucoup les gens aussi, là.
Ouais, y a ça, y a ça. Si on va dans le un peu plus ancien, parce que c'est le fun de si on parle, mais les premiers jeux de société dans qui seraient un peu comment dire, qui serait un peu à nous amener dans les jeux de rôle, ça serait quoi, selon vous autres?
Je ne connais pas tellement en vieux jeu. Je sais qu'il y a le jeu Hero Quest que j'ai entendu parler des milliers de fois, qui est
Ouais.
comme probablement un des premiers dungeon crawlers, là.
Ben, c'est un des dungeon crawlers, puis t'as justement, je pense aussi, il y en a un qui s'appelle dungeon crawler ou quelque chose dans le genre, là. Mais les Hero Quest, ouais, c'est ça, je pense, ça jouait un peu avec des maps et des choses comme ça, si je me souviens bien, mais j'ai jamais joué, fait que je pourrais pas dire, là.
J'ai
J'ai...
vu des jeux passer, j'ai vu des gens même qui vendaient leurs copies récemment. Ça a l'air d'être un jeu avec beaucoup de miniatures. Ça a l'air d'être comme une partie de donjon, mais vraiment intensément, genre.
Ouais, c'est un jeu de miniature, hein.
Ouais, c'est un jeu de miniatures.
C'est un jeu de miniature que je joue. Moi, le jeu le plus vieux que je connais qui est vraiment ce genre de jeu-là, ça s'appelait Knight of Camelot. Puis ça a été créé en 1980 par le publisher, c'était TSR, en fait, sur la compagnie qui a fait Donjons et Dragons au départ. Puis c'était toujours tu joues un chevalier qui veut devenir un chevalier de la table ronde. Et ben pour ça, ben tu vas voir ton roi. Après ça, tu vas de plus en plus loin. Puis chacun d'eux te donne des missions. T'as des missions pour. T'as des quêtes, carrément, pour pouvoir devenir ami de château, pour avoir des avantages, des choses comme ça, pour augmenter dans ta valeur chevaleresque. Puis plus que tu avances à la valeur chevaleresque, quand tu es rendu à, je pense, c'est 100 points de valeur chevaleresque, quelque chose comme ça, ben tu peux essayer d'appliquer comme chevalier de la table ronde. Puis là, ben, ta dernière mission, habituellement, c'est d'essayer de trouver le Graal. Puis à tous les tours, ben, tu as un personnage qui se promène, qui est. Tu sais pas si c'est Merlin ou si c'est Morgane. Puis si c'est Merlin, ben, il va tout le temps te donner une méchante quête, la quête de ta vie, si tu veux, qu'il faut que tu fasses avant de pouvoir devenir chevalier. Puis ça t'envoie tout le temps des endroits merdiques. Mais c'est moins pire que Morgane qui, elle, t'enchante. Puis là, t'es sous ton contrôle. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis nous autres, ben, on s'est toujours amusés. Ben, tu sais, comme on est un chevalier, on est sire quelque chose, hein. Mm-hmm. Fait que là, c'est tout le temps des jeux de mots super poches, là. De sire d'oreille, circonférence. des trucs comme ça, là. Sire d'abeille. Mais c'est un très, très vieux jeu. Il est dur à trouver, parce que là, on s'entend que c'est un jeu de 1980. Je te dirais que c'est un jeu qui devrait... Il devrait le refaire.
Ben, c'est une bonne alternative, je pense. Ça me fait penser justement à un vieux jeu qui ressemble à ça, mais qui est encore édité aujourd'hui. Talisman. Je sais pas si tu as déjà joué.
Ouais, j'ai joué à Talisman. À un moment donné, il avait arrêté de le rééditer, puis il est devenu comme super à la mode. Fait que là, le jeu était pas très cher les premières éditions, puis quand il est devenu à la mode, puis je te dis, ça, c'est peut-être début 80... Non, début 2000 à peu près, ben là, il se vendait 150-200$ facilement pour des versions usagées, là.
Ça, maintenant, Talisman, tu peux l'avoir à vraiment pas cher.
Après ça, ils l'ont réédité, puis là, ben là, ça a redescendu les prix. Mm-hmm.
Mais Talisman, c'est probablement le jeu le plus simple au monde, là. C'est tu brasses des dés puis tu regardes qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment juste ça.
Oh ouais, non, c'est...
Tu brasses des dés pour te déplacer, tu brasses des dés pour savoir si tu bats un monstre, tu brasses des dés pour à peu près tout.
Je te dirais, c'est du jeu de société classique, là. Ouais,
non, ça. C'est tout le temps... du hasard par excellence.
C'est du pas c'est exactement la même affaire, c'est juste que ça a un skin de...
médiéval fantastique.
Exact.
T'as quand même beaucoup de rencontres pis de saveurs un peu roleplay. Ton but, c'est de te rendre au milieu de la carte pis de tuer tous les autres joueurs. Pis t'as plein de différentes classes, races de personnages. Mais c'est comme je dis souvent aux gens, Talisman, c'est probablement un des jeux avec les règles les plus mal faites que j'ai vu, les plus poches, pas les plus mal faites, sont juste poches. C'est des règles de merde, ayons pas peur de le dire. Mais c'est un jeu que j'ai énormément de plaisir à jouer à chaque fois.
Nous autres, on a joué énormément aussi à ce jeu-là à l'époque. C'est comme peut-être au début, justement. On l'avait acheté, puis là, c'est quand il a commencé à pu se trouver. L'ancienne version, je pense, a plus d'extensions, par exemple.
C'est encore drôle. Il y en a à peu près une dizaine, la nouvelle version.
Vraiment, ils ont rattrapé. Mais, en fait, peut-être qu'ils ont même dépassé la première version.
Oh non, maintenant, tu peux rajouter des boards, t'as plein, 40 000 nouvelles classes, races.
Ouais, c'est ça.
Board, mais c'est ça. Si vous voulez un petit jeu simple, il est quand même long, par exemple. Mais genre, c'est pas un jeu que tu t'en fous un peu d'arrêter en plein milieu.
Ouais.
Mais c'est ça.
Si
tu veux du... Si vous voulez du mindless fun, là, Talisman, c'est comme ça. T'as pas à te casser la tête à apprendre les règles tant que ça. Sinon, il y a des jeux un petit peu plus de storytelling. J'entrerai pas trop là-dedans parce que des fois, c'est vraiment limite entre le jeu de rôle. Maintenant, il y a même une nouvelle catégorie de jeux de rôle qu'on appelle des story games. Fait qu'on en parlera une autre fois de ça. Mais des jeux vraiment plus jeux de société, connus. On a parlé un peu avant le podcast, il y a Oui, Seigneur des Ténèbres. Un jeu dans lequel un joueur fait le Seigneur des Ténèbres. Et les autres font des gobelins qui ont échoué une quête. Puis il faut essayer d'expliquer au Seigneur des Ténèbres pourquoi on a échoué à l'aide de cartes. Puis de renvoyer la faute sur les autres.
Ah, à l'aide de cartes et de bien roleplay aussi.
Ouais, c'est
parce que
ça.
je dirais qu'il y a énormément dans ce jeu-là. Plus
c'est un jeu qui t'oblige à faire du roleplay.
Ouais.
Puis c'est le fun, ça donne des situations très cocasses, toujours très très drôles. Un peu dans le même principe, il y a Once Upon a Time, où il était une fois en français, qui est le but, c'est de construire un conte de fées. On a des cartes dans les mains qui sont des personnages, des endroits, des événements. Puis on construit une histoire pour jouer nos cartes. Tout le monde a aussi une fin d'histoire, puis notre but, c'est quand on se débarrasse de notre dernière carte, réussir à amener l'histoire à notre fin. Mais si, par exemple, en comptant l'histoire, je dis, bon, ben, il était une fois un jeune prince, le prince s'est enfui, etc., il s'est ramassé dans une forêt, puis Marc... Ben, toi, t'as la carte de forêt dans les mains. Ben, tu dis, ah, dans une forêt, tu mets la carte, puis là, ça devient à ton tour de compter l'histoire.
OK.
On peut faire passer volontairement notre tour si on est en manque d'inspiration, si on hésite trop, ou si le tour passe à l'autre, si on se trompe de nom d'un personnage, etc. Fait qu'il faut rester cohérent dans l'histoire. Ça évite de faire des histoires loufoques qui n'ont pas rapport. Hein. Mais c'est un jeu qui peut donner vraiment, vraiment des belles choses. Là, j'ai joué d'ailleurs la semaine dernière, ou là 2 semaines, puis on a eu une histoire vraiment plus loufoque, drôle, mais qui était vraiment, qui se tenait bien quand même, puis qui était vraiment le fun, puis une autre plus sérieuse qui était super intéressante. C'est drôle d'essayer de voir un peu tout le monde tirer l'histoire de son côté aussi.
Ben, c'est aussi.
Peut-être 2 petits derniers jeux avant de clore le sujet, ou si vous en avez d'autres aussi, allez-y. Il y en a un que je veux absolument parler, parce que c'est pour moi probablement le meilleur jeu pour introduire des gens au jeu de rôle. C'est Mice and Mystics. Un jeu qui
Ah
est
oui.
sorti relativement récemment, qui a maintenant, je pense, 2-3 extensions peut-être. C'est parfait pour introduire des gens au jeu de rôle, puis même les enfants. C'est un jeu parfait pour jouer en famille aussi. C'est une espèce de dungeon crawler, mais vraiment avec une histoire. Donc chaque scénario, t'as un petit texte à lire, un petit bout d'histoire pour raconter qu'est-ce qui arrive. Chaque joueur va être un personnage dans cette histoire-là. Vous êtes dans le fond des espèces de guerriers qui se sont fait transformer en souris par la méchante reine. Puis on progresse dans l'histoire en acquérissant des nouvelles compétences, des nouveaux objets. Puis chaque chose qu'on va faire va changer un peu l'histoire. On peut prendre différents chemins dépendant de ce qui se passe, etc. Fait que c'est vraiment une espèce de partie de jeu de rôle mis en jeu de société. C'est
Nice.
vraiment, vraiment, vraiment un bon jeu pour ça, à mon avis, là. Surtout pour jouer en famille. Excellent jeu de famille. Mice and Mystics. Il existe en français. Je le conseille à tout le monde.
Est-ce que tu peux faire juste des guerriers ou il y a d'autres classes?
Non, c'est juste des guerriers, mais c'est pas des guerriers. Là,
Ben, je comprends qu'on est des souris, là,
je pense
mais.
que c'est une espèce de rébellion, puis la reine est méchante, si je me souviens bien de l'histoire. T'en as un, t'as Colin, qui est comme le héros principal en quelque sorte, qui est une espèce de guerrier. T'en as un qui est plus un magicien. T'en as une qui est une archère. T'en as un qui est comme plus un voleur. T'en as un qui est plus un gros barbare. Fait que t'as vraiment un peu les classes classiques mis à l'intérieur de personnages.
Puis c'est un autre jeu que c'est écrit que tu peux jouer à une personne.
Ouais, si tu veux juste vivre l'histoire puis jouer un jeu tactique un peu tout seul, ça se fait très bien seul, Mice and Mystics.
OK.
C'est sûr que le fun comme les jeux. T'sais, on s'entend que c'est des jeux de société à la base, fait que c'est toujours plus plaisant de jouer
En société.
en société. Sinon, pour les gens qui veulent quelque chose d'un petit peu plus passif, qui aiment par exemple les livres dont vous êtes le héros, il y a Tales of the Arabian Night, qui a été d'ailleurs édité récemment. C'est un jeu français à la base des années 80. Il a été réédité en anglais dans les années 2000 par Z-Man Games. Puis il vient d'être réédité en français par Philosophia, si je me souviens bien. C'est un peu les histoires des mille et une nuits. On interprète chacun un personnage, on choisit son sexe, Fait que tu peux avoir Sinbad ou Aladdin en tant que fille, mais pose-toi pas de questions. tu choisis trois compétences au départ. Fait que tu peux choisir que toi, ton Aladdin, ben, il sait faire de la magie, il est bon pour se déguiser, puis il est bon pour le combat. Ou il connaît la nature. Donc, il y a plein de compétences différentes. Puis, t'as un gros livre avec des milliers d'histoires, situations différentes. Dans le fond, tu te promènes à travers une carte des contrées arabes, Europe et un peu asiatiques. Puis, à chaque fois que tu te déplaces, il t'arrive une aventure, il se passe toutes sortes de choses. Ton but, c'est de gagner du destin et de l'histoire. Puis, une fois que t'as gagné assez des deux choses, ben, tu retournes à Bagdad, puis tu gagnes la partie. Un jeu que j'adore encore une fois, mais c'est vraiment, t'as l'impression de jouer un gros livre dont vous êtes le héros en gang.
Nice.
Ça donne vraiment toutes sortes d'histoires épiques. T'sais, tu te ramasses à rencontrer un djinn qui te donne un trésor, puis là tu deviens riche, mais là tout d'un coup tu te fais arrêter par le vizir parce qu'il pense que t'as couché avec sa femme, puis là il t'enlève tout ton argent, puis t'es rendu dépressif. Bref. Un excellent jeu.
Ça me fascine tout le temps des jeux où est-ce que tu peux jouer seul. Puis là aussi, ça dit de 1 à 6.
Ouais, parce que c'est comme vivre une histoire. Souvent, les jeux coopératifs ou les jeux justement qui tirent plus vers le jeu de rôle vont permettre de te jouer tout seul parce que tu vis l'histoire, tu peux la vivre tout seul aussi. Tales of the Arabian Nights, sincèrement, je pense que dans tous ceux qu'on a parlé, c'est probablement un de ceux-là qui jouerait vraiment bien tout seul, parce que t'as juste l'impression de lire une histoire. Sinon, c'est sûr, les jeux plus tactiques se jouent bien tout seul aussi, si on aime justement l'aspect plus tactique, etc. Ouais. Mais c'est ça. Les jeux de société essayent de faire de plus en plus ça, offrir la possibilité de jouer seul. C'est sûr qu'il y a des jeux qui s'apprêtent moins bien, donc ils pourront jamais le faire, mais... C'est une option intéressante à avoir, à mon avis. Surtout, c'est probablement aussi les jeux qui jouent seuls, parfaits pour apprendre les règles avant de jouer avec des gens. Comme ça, tu joues tout seul, puis tu rencontres toutes sortes de situations en jouant tout seul. Fait qu'après, c'est beaucoup plus instinctif d'apporter les règles, etc., autour de la table.
Ah, c'est vrai, c'est une bonne façon. Je n'avais pas vu ça de même, mais... apprendre les règles quand t'as pas d'autres personnes pour les apprendre. Parce que des fois, les games deviennent tellement longs que t'apprends en même temps.
Ouais, non, c'est ça. Jouer une partie sans avoir lu les règles au préalable, là, des fois, c'est pénible. Puis ça peut rajouter vraiment beaucoup, beaucoup de temps à une partie. Une chose aussi, pour les gens qui vont s'intéresser à acheter des jeux de société dans les prochains temps, à cause de nous autres. Espérons-le. Moi, j'aime ça donner ma passion. Puis vendre ma passion.
C'est pour ça qu'on fait le podcast.
C'est plus ma job. Ouais, c'est pour ça qu'on fait le podcast, évidemment. Sinon, on serait pas ici. Aucun de nous autres. Mais bref, ce que j'allais dire, c'est... fiez-vous pas nécessairement au temps qu'il y a sur la boîte. C'est pas toujours le bon temps. Non. Rajoutez normalement une demi-heure à ça, puis ça devrait être pas pire. Surtout pour les jeux qui sont... un petit peu plus proche du jeu de rôle, là. Souvent, ils essayent de baisser ça. Ils font comme, notre jeu dure juste une heure et demie. Pourquoi j'ai jamais joué une partie en bas de 3 heures,
t'sais? Ouais.
Ouais. À moins que tout le monde soit vraiment très à l'aise avec le jeu, tout le monde connaît très bien.
Mais.
Là, t'arrives, tu sais ça, ok, ça peut.
Même là, je te dirais, tu sais.
Il y a du blabla, on jase, on a du fun, fait que ça rallonge le temps aussi. T'sais, avant d'acheter un jeu de société, surtout maintenant, les jeux de société, ils ont une relance incroyable, c'est devenu super populaire. Tout le monde en parle. Donc, gênez-vous pas, allez voir des vidéos sur YouTube, allez voir sur Board Game Geek, qui est un excellent site de référence pour les jeux de société, je mettrai le lien. Renseignez-vous avant d'acheter un jeu pour être sûr qu'il est fait pour vous. Si vous avez l'opportunité de l'essayer, faites-le. Si vous êtes à Montréal, il y a le Randolph, chez Geek ou plein d'autres places comme ça qui peuvent vous faire jouer au jeu s'ils l'ont probablement.
Il y en a beaucoup maintenant. Là. Il y a la récréation.
Oui, c'est vrai. Il y en a de plus en plus.
Il y a Colonel Moutarde. Il y en a plusieurs. Ben, à Québec aussi, je pense qu'il y en a au moins deux.
À Québec, il y a la revanche.
Il y a la revanche.
Pas mal tout pour le moment.
Puis il y a potentiellement. Quelque chose comme socio-jeu ou.
Socio-jeu, il n'est plus là.
Ah,
okay. Socio-jeu, c'est déporté, parti. C'est quelque chose d'autre qui a pris sa place puis qui a fermé entre temps. Malheureusement. Donc, la revanche est probablement la meilleure place. Pour avoir travaillé là, c'est sûr que je vais vendre l'endroit. Il y a des excellents conseillers, des anciens collègues à moi qui sont encore plus experts de jeu que moi. Donc, ils vont pouvoir vous expliquer tout ça avec un grand aise.
Puis, je sais aussi qu'il y en a un à Sherbrooke, je me souviens plus du nom.
Il y en avait un à Gatineau, mais il a fermé tout récemment, malheureusement. Okay. Je sais pas s'il comptait réouvrir, c'était Échec et Malte.
Ah. Tu vois, je le connaissais même pas, mon Dieu.
Ouais, ben c'est ça, il y en a quand même plusieurs. Ça l'ouvre, ça ferme. Vous pouvez faire une recherche dans votre coin pour pub ludique ou café ludique ou des choses comme ça.
Des fois, il y a des clubs de jeux de société aussi, ou des gens tout simplement qui se rencontrent.
Ouais.
Il y a des groupes de jeux de société sur Facebook également. Vous pouvez en chercher, il y en a quelques-uns. Ils sont peut-être moins peuplés que, par exemple, Québec Jeux de rôle sur table, qu'on parle souvent. Mais vous faites quand même, ou même des fois il y a des groupes d'un jeu en particulier, des communautés par exemple qui jouent à Twilight Imperium, à Descent, ben ça peut être plus facile de trouver des gens. Sinon, les jeux en ligne, les plateformes de jeux en ligne qu'on a parlé au début, qui sont là pour ça aussi. Fait que, plein de ressources différentes. Je vous encourage vraiment à découvrir ce monde-là. Si vous êtes des fans de jeux de rôle à la base, il y a beaucoup de jeux de société que vous pouvez aimer et même adorer. Souvent, ces deux passions qui vont très bien ensemble.
Ouais.
Je pense que ça fait pas mal le tour, à moins que vous aviez peut-être un dernier jeu si vous pensez à quelque chose.
Non, moi, c'est... On a fait... T'as fait déjà souvent, tu sautais sur celui que je voulais parler.
Je m'emballe pas mal. C'est un sujet qui me passionne.
Tant qu'on a parlé de tous les jeux qu'on voulait parler, c'est déjà une bonne chose.
Ben moi, déjà, je peux te parler du seul jeu que j'ai retrouvé chez nous. C'est Dungeon Twister.
Ah, oui,
un jeu qui se joue à deux. Qui est un peu dans le... je te dirais que c'est un peu semblable au film Ça, mais dans un contexte médiéval fantastique, où est-ce qu'un groupe d'aventuriers se fait capturer et téléporter dans un labyrinthe auquel tu dois sortir pour gagner. Puis, avec une extension, tu peux jouer à 3 ou 4 joueurs, mais pour le jeu normal, c'est seulement que 2 joueurs.
Mais ça, si je me souviens bien, c'est compétitif.
Ouais, c'est
très. Très, ouais.
OK, ça, chacun a un héros ou une équipe de héros?
Chacun a 4 héros, d'après ce que je peux voir. Ouais, chacun choisit 4 héros au départ, puis c'est le premier qui arrive à 5 points qui... un point à chaque fois que...
À un moment donné, c'était assez à la mode pendant quelques années où est-ce que tu avais des tournois, des choses comme ça, puis tout d'un coup, ça l'a comme tombé. Ouais. Ben, vite. Je sais pas pourquoi, là, mais...
C'est comme je parlais à Marc avant le podcast. Ils ont sorti une nouvelle édition de ce jeu-là. C'est Dungeon Twister Prison. C'est comme la deuxième... C'est même Dungeon Twister 2 Prison. Fait que c'est vraiment la deuxième édition du jeu. Qui est compatible avec les vieilles éditions également. Pour ceux qui recherchent le jeu, les plus vieux jeux sont plus durs à trouver, mais Dungeon Twister Prison, je pense, se trouve plus facilement. Un jeu qui m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais eu la chance de jouer, malheureusement.
J'ai joué, les règlements sont un peu longs. Je vais t'avouer que ça m'a pris 3 heures pour revoir tous les règlements du jeu, là. Puis encore là, j'étais... Il me semble que j'aurais besoin de jouer pour vraiment comprendre.
C'est pour ça qu'il y avait des clubs, je pense. Ça aidait beaucoup à apprendre le jeu.
C'est souvent ça, des jeux de société, à part si les règlements sont vraiment, vraiment bien faits, t'as l'impression de lire du chinois, à part si t'as le jeu sur la table en ce moment, puis que tu fais les choses à mesure avec les règles.
Fait que j'aime bien beaucoup quand tu disais tout à l'heure de si le jeu permet de jouer tout seul, ben jouer pendant que vous apprenez les règles tout seul pour pouvoir les apprendre, c'est une bonne technique. Franchement, j'avais pas vu le côté de pourquoi jouer tout seul, à part que quand t'as pas d'amis, tu restes loin de tout le monde, puis que t'aimerais faire un jeu de société cette journée-là. Mais j'aime ce truc de pouvoir jouer.
Bah, t'sais, jouer tout seul dans un jeu de société, si le jeu de société est pas mal dynamique, ça peut être, c'est comme ça revient un peu à jouer un jeu vidéo. Sauf que le jeu vidéo, t'as beaucoup plus d'interaction avec le jeu en tant que tel. Mais il y a des jeux qui permettent un peu ce sentiment-là.
Ben, je vais t'avouer que c'est peut-être personnel comme feeling, là, mais tant qu'à jouer tout seul, je vais jouer à un jeu vidéo juste parce que ça implique moins de préparation.
J'ai exactement le même feeling. C'est pour ça que je dis que j'aime pas vraiment jouer tout seul à des jeux de société.
Non.
Mais l'option est là. Fait que probablement qu'il y a des gens qui aiment ça.
Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une opinion personnelle.
Je pense qu'il est là de plus en plus aussi, cette option.
Ouais, non, c'est ça. C'est une option qu'on voit de plus en plus présente dans les jeux. Fait que ça fait pas mal le tour de notre sujet de la semaine. Je pense qu'on vous a donné pas mal de jeux et d'outils. Évidemment, on mettra peut-être pas les liens à tous les jeux qu'on a parlé aujourd'hui. On va mettre les liens les plus importants.
Une sorte de voir la page de liens, toi. 40 jeux, vas-y.
On va mettre le lien vers Board Game Geek. Vous allez pouvoir rechercher les jeux là-dessus. Sinon, en français, il y a Trick Track, qui est un site de référence aussi. Je vais mettre les liens également. Et ça, c'est pas mal ça. Fait que, on vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres, d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite une excellente journée et surtout,
bonne aventure, je pense, ça.
C'est pas mal ça. Bonne aventure.
Hey, je l'ai pas perdu.